22h à Abuja et 22h à Djanet. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Après le bulletin d'information, nous évoquerons les 3000 immigrés africains sans papiers qui ont accepté de quitter Israël contre une somme d'argent. Suite de notre série consacrée au groupe islamiste Boko Haram au Nigeria pour le dossier du jour.
Oui, Boko Haram vient recruter ici, c'est vrai, on ne ment pas. Il y a un chef traditionnel, il y a les autorités religieuses traditionnelles. Ils sont là, les enfants ne font absolument rien. Et comme ils n'ont rien à faire, le Boko Haram vient maintenant tirer profit et puis prendre ses enfants pour aller les former.
Les pays voisins du Nigeria peuvent-ils combattre Boko Haram sans s'exposer à des attaques de la part du groupe terroriste? C'est la question auquel nous répondrons dans le dossier. Enfin, suite de notre entretien avec le musicien Touareg Nabil Otmani qui nous parle de l'énergie et de la vivacité de la scène musicale Touareg. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger à ce micro. Tout de suite, on va en Égypte. Le ministre de la Défense, le maréchal Fatah El-Sissi, est candidat à la présidentielle. Le nouvel homme fort d'Égypte a annoncé sa candidature prévue cette année lors d'une allocution télévisée ce soir. Le maréchal, qui est âgé de 59 ans, a chassé, vous le savez, le président Mohamed Morsi du pouvoir en 2013. Il a également déclaré que la menace terroriste pèse sur l'Égypte et qu'il va travailler dur pour en faire un pays libre de peur. M. Sissi a présenté sa démission au président par intérim Adli Mansour, a noté que la date de l'élection présidentielle prévue au printemps n'a pas encore été fixée. En République centrafricaine, alors qu'un calme relatif règne aujourd'hui à Bangui, la présidente de la transition est sortie de son mutisme. Catherine Samba-Panza a assuré que le désarmement du 3e arrondissement, tant souhaité par une partie des centrafricains, sera bientôt chose faite, tout comme celui des autres arrondissements. Timothée Donangmaï.
Catherine Samba-Panza a déclaré aujourd'hui qu'il n'est pas tolérable que les forces internationales venues en appui au pays deviennent des cibles de certains groupes armés. Elle a promis un désarmement très prochain du 3e arrondissement.
Je voudrais ici porter à la connaissance de tous qu'il n'y aura pas de zone de non-droit tant à Bangui qu'à l'intérieur du pays. La Miska et la Sangaris procéderont au désarmement de tous les groupes sur l'ensemble du territoire. Faites-moi confiance, le 3e arrondissement sera désarmé, tout comme les autres quartiers de Bangui abritant des milices ou des groupes armés.
En réponse à ses détracteurs qui l'accusent d'inaction face au projet d'une tentative de partition du pays, la présidente se veut rassurante et indique que ce projet est une vue de l'esprit de ses auteurs et de ceux qui y croient.
L'administration centrafricaine se déploie doucement et partout sur l'ensemble du territoire national. Mon ambition est de conduire la transition de manière consensuelle et inclusive jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel à l'issue des élections libres et transparentes.
Au sujet du réarmement des forces armées centrafricaines, la chef de l'État a fait savoir qu'elle a été confrontée à un refus poli de la part du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Justice internationale, Charles Blé Goudé comparaîtra demain à La Haye. L'allié de Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, est poursuivi pour son rôle présumé dans les attaques contre des civils lors de la crise post-électorale en 2011. Il s'agira de la première comparution devant la Cour pénale internationale qui a retenu contre lui 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. Nouvelle avancée des forces pro-gouvernementales à Somalie, l'armée et les soldats de l'Union africaine ont repris le contrôle d'Elbour dans le centre du pays. C'est ce qu'annonce la MISOM, la mission africaine en Somalie. Cette ville, située à 350 km de Mogadiscio, était jusqu'alors aux mains des islamistes d'Al-Shabaab.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le président Obama affirme que la communauté internationale est unie dans sa détermination à isoler la Russie en raison de son annexion de la Crimée et que la question met en évidence la nécessité pour l'Europe de trouver d'autres sources pour ses approvisionnements en énergie. Du nouveau sur l'avion disparu de Malaysia Airlines, plus de 120 débris pourraient avoir été repérés grâce à des images satellites françaises. C'est ce qu'indiquent les autorités malaisiennes. Ces débris ont été localisés dans l'océan Indien à plus de 2500 km des côtes australiennes, mesurant jusqu'à 23 mètres de long, il pourrait provenir d'un avion. Paix au Proche-Orient, le secrétaire d'État américain John Kerry est en Jordanie dans l'espoir de relancer les pourparlers israélo-palestiniens. Il a rencontré le roi Abdallah de Jordanie. Des entretiens avec Mahmoud Abbas, président palestinien, étaient également prévus. Visite qui intervient alors que les 22 pays de la Ligue arabe ont annoncé qu'ils ne reconnaîtront jamais Israël comme un État juif. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, la suite de Sahel+.
Retour à la partie magazine de Sahel+, et nous revenons sur les problèmes rencontrés par les demandeurs d'asile africains en Israël. Nous avions couvert leurs nombreuses manifestations et revendications depuis le début de l'année, notamment à Tel Aviv. Les migrants réclamaient un changement de la politique d'Israël qui, jusqu'ici, accordait au compte-gouttes le statut de réfugié. L'État hébreu encourage désormais les départs volontaires et près de 3000 immigrés africains sans papiers ont accepté de quitter Israël contre le paiement d'une somme d'argent. Si le gouvernement israélien parle d'actes volontaires, pour les ONG et les activistes qui militent pour la cause des demandeurs d'asile, les immigrés africains ont subi des pressions pour les forcer à quitter le pays. Jacques Aristide a recueilli les précisions de Scott Bob, le correspondant de La Voix de l'Amérique à Jérusalem.
Israël, depuis quelques années, essaie de réduire le nombre d'immigrants africains que, pour l'Israël, le gouvernement sont des immigrants économiques qui cherchent seulement du travail, bien que les immigrants disent qu'ils fuient des régimes autoritaires et peut-être même la mort. Alors, ils ont pu déporter plusieurs centaines, peut-être quelques mille réfugiés, par exemple, de Côte d'Ivoire et du Sud-Soudan, disant que bon, les guerres chez eux étaient finies, donc ils pouvaient rentrer chez eux. Mais pour le cas de l'Érythrée et du Soudan même, comme il y a encore des conflits et beaucoup de problèmes de droits de l'homme, c'est très difficile, selon les statuts internationaux, pour déporter ces gens. Donc, le gouvernement essaie de trouver une solution. Et cette solution, pour le moment, apparaît être de les encourager, pressionner même, de quitter le pays volontairement.
Nous savons que des milliers d'immigrés africains ont manifesté ces derniers mois contre le refus des autorités israéliennes de leur accorder le statut de réfugié.
Comme tu as souligné, ils sont très pressionnés. Ils sont en plus maintenant dans cette facilité, c'est une prison ersatz où ils sont isolés. Ils peuvent sortir pour quelques heures, mais ils doivent toujours rentrer le soir. Et donc, c'est une pression pour qu'ils quittent volontairement le pays. Beaucoup n'ont pas accepté cette offre et disent que non, c'est la mort certaine qui leur attend chez eux. Donc, ils préfèrent de rester dans une sorte d'incertitude en attendant que peut-être la demande d'asile peut-être serait accordée.
Donc, un sujet très polémique, en quelque sorte, en Israël.
Polémique et difficile parce qu'il y a quand même des Israéliens qui supportent beaucoup les migrants, disant que ce n'est pas juste. Il ne faut pas oublier que les Juifs, les Israéliens eux-mêmes ont été des réfugiés pendant des millénaires et ont souffert beaucoup partout dans le monde. Donc, pourquoi ils commencent à traiter des gens comme ils ont été traités, donc. Et alors, ils ont beaucoup de soutien parmi certains groupes qui les appuient, et c'est pour ça que ce cas, cette détention dans cette facilité, sera présenté devant la Cour suprême à partir du 1er avril.
Scott Bob, le correspondant de La Voix de l'Amérique à Jérusalem. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel+, sur la VOA 102.4 FM à Ouagadougou. Suite de notre série sur le groupe terroriste nigérien Boko Haram. Alors que l'armée nigériane s'en prend à la secte islamiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, le gouvernement du président Goodluck Jonathan affirme que les militants trouvent refuge dans les pays voisins, d'où ils mènent des attaques transfrontalières au Nigeria. Les voisins du Nigeria sont confrontés eux-mêmes à une question difficile. Comment combattre cette tendance sans devenir eux-mêmes des cibles d'attaque? Deux correspondants de La Voix de l'Amérique, Anne Luke et Moki Edwin Kinzeka, se sont penchés sur la question. Timothée Donangmai nous présente leur reportage.
Le nord-est du Nigeria borde le Niger, le Tchad et le Cameroun. C'est une longue et poreuse frontière qui s'étend sur plus de 500 kilomètres. Celle-ci est difficile à sécuriser, ce dont Boko Haram est soupçonné d'avoir profité pendant des années. Le cas du Niger et du Cameroun est particulièrement préoccupant. Au Niger, la capitale régionale de Diffa est juste de l'autre côté de la frontière de l'État de Borno, l'épicentre de l'insurrection au Nigeria. Le préfet de la région de Diffa, Inoussa Sauna, dit que sa ville est sur la ligne de front.
Ça reste permanent, hein? on est juste vigilant. Et que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore pu faire des opérations sur le territoire nigérien. Mais l'infiltration, c'est évident compte tenu de la proximité, mais également du fait que ce sont les mêmes populations, les mêmes familles qui parlent les mêmes langues.
En février, l'armée du Niger a déclaré que les autorités ont arrêté 20 militants nigérians de Boko Haram qui auraient planifié des attentats contre Difa. Depuis que le Nigeria a monté une offensive contre Boko Haram en mai dernier, près de 60 000 personnes ont fui le nord-est pour les pays voisins. La plupart sont allées au Niger. Le flux des réfugiés soulève d'autres préoccupations d'infiltration. Au Cameroun, il est à craindre que Boko Haram n'ait établi des camps dans les zones frontalières montagneuses. Le groupe pourrait être en train de recruter des adeptes. Amaoundé Mohamed est l'imam d'une mosquée à Kolofata, une ville camerounaise près de la frontière du Nigeria.
Oui, Boko Haram vient recruter ici, c'est vrai. À ce moment, on ne ment pas. Il y a un chef traditionnel, il y a les autorités religieuses traditionnelles. Ils sont là, les enfants ne font absolument rien. Et comme ils n'ont rien à faire, le Boko Haram vient maintenant tirer profit et puis prendre ses enfants pour aller les former, pour qu'ils soient vraiment leur pitance, pour leur chercher à manger ou bien pour faire les razzias. L'État ne dit pas la vérité, l'État ne dit rien.
Sanusi Ibrahim, un prédicateur de Boko Haram de l'État de Borno, a été détenu pendant 3 mois par les autorités camerounaises. Un journaliste de La Voix de l'Amérique l'a interviewé ce mois-ci dans l'extrême nord du Cameroun. Quand on lui a demandé s'il recrute des membres pour la secte, Ibrahim a répondu qu'il ne faisait que prêcher.
I am here to preach the message of Allah.
Je suis ici pour prêcher le message d'Allah. Je ne fais que transmettre le message de l'islam. Je suis de Boko Haram, mais je suis là juste pour prêcher le message d'Allah. Le Nigeria a fermé une partie de sa frontière avec le Cameroun, arguant que les militants ont utilisé ce pays comme base pour se faufiler au Nigeria et mener des attaques. Il y a eu plusieurs attaques récentes contre des villages nigérians près de la frontière avec le Cameroun, de même que 2 incidents ce mois-ci dans la ville de Kousseri au Cameroun, près des lignes frontalières avec le Nigeria et le Tchad. Au moins un soldat a été tué. Les autorités ont pointé du doigt Boko Haram. Les Camerounais ont intensifié leurs patrouilles et leurs dispositifs de sécurité le long de la frontière depuis l'année dernière. Mais le Nigeria leur a demandé de faire davantage. Le ministre camerounais de la communication, Issa Chiroma Bakari, rejette les allégations selon lesquelles son pays serait complaisant ou indulgent face à une menace terroriste régionale.
Let me say here that such allegations are irresponsible and ungrounded.
Permettez-moi de dire ici que ces allégations sont irresponsables et sans fondement. Le Cameroun est un pays épris de paix. Comme tel, il n'est pas possible qu'il puisse encourager le développement de la violence dans d'autres pays, et en particulier les pays voisins, a dit le ministre Issa Chiroma Bakari. Les analystes croient que c'est une question de ressources et que les voisins du Nigeria n'ont pas nécessairement l'argent ou le personnel pour combattre ce que certains considèrent encore comme un problème nigérian. En effet, Boko Haram a monté très peu d'opérations en dehors du Nigeria. La secte a effectué 2 enlèvements de citoyens occidentaux au Cameroun, mais les militants nigérians ont plutôt ménagé ce pays. Cela pourrait changer si le Cameroun adopte une position plus agressive.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique et sur le 100.9 FM à Sokodé au Togo sur la radio Tchaoudjo. Nous retrouvons le musicien Touareg Nabil Otmani, guitariste et chanteur du groupe Nabil Bali de Djanet en Algérie. Le groupe propose deux répertoires très différents, un moderne mélangeant des sonorités du reggae, du blues, du désert. Le second est beaucoup plus intimiste. Nabil chante les poèmes de son père, accompagné d'un seul oud, le luth du désert. Nous lui avons demandé si l'énergie et la vivacité de la scène touareg étaient importantes à ses yeux. Nabil Otmani.
Moi, personnellement, ça me fait plaisir parce que ça nous permet de présenter cette culture. Pour moi, c'est une fierté de me retrouver avec des groupes comme ça ici, à regarder en avant, dans les mêmes regards, quoi, pour présenter cette culture, quoi. À Janet, si on parle de vraiment Janet, il ne se passe rien du tout. C'est une ville très, très calme. Et après, avec tout ce qui s'est passé autour, par exemple au Mali ou la Libye, c'est vrai qu'on a eu pas mal de réfugiés qui sont venus s'installer là-bas. Mais ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé, sauf dans les déserts qui fait la liaison entre Niger ou entre la Libye et Janet. C'est là où ça bouge un peu. Mais ça va, sauf la seule chose qui je sais pas, je trouve ça triste que depuis que les choses qui sont passées, la région elle reçoit pas de touristes. Et d'un côté, si par exemple dans notre état nous, que Catherine on l'a rencontrée là-bas comme en tant touriste, elle était là-bas et c'est là que ça a ouvert des choses sur la scène européenne. Et je trouve que maintenant les groupes qui sont là-bas, je sais pas comment ils vont faire pour présenter ce qu'ils ont.
C'est vous qui allez devenir un peu le porte-parole, alors.
On essaie toujours de présenter une culture, de présenter une région, de présenter toute la population touareg et dire que derrière nous, il y a quand même des groupes qui arrivent, qui sont là à présenter encore plus cette région et cette population, quoi.
Alors, parlez-nous un peu de votre dernier album et quelles ont été vos influences.
Le dernier album, il s'appelle Aitma. Aitma, c'est une chanson qui est sur le disque dans laquelle on rend hommage à la population malienne. Ça fait des ans ou trois ans où il y avait une sécheresse là-bas. Et c'est un disque qui présente vraiment ce qu'on fait par rapport à les premiers disques qu'on a eus. Celui-là, il présente vraiment la version qu'on fait sur scène et comment on présente les choses. Et les influences qu'il y a à l'intérieur, c'est des influences un peu arabo-andalou, un peu espagnol, si on peut dire ça, et reggae, et du blues du désert, quoi.
Vous vouliez me jouer un petit morceau tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous nous jouez, là ?
Tourna, c'est une chanson qui est sur le disque. Ça veut dire, elle s'appelle La maladie, en fait.
Ouais. Et ça parle de ?
Et ça parle d'une histoire de des amis, où il lui disait, je ne croyais pas que quelque chose, une parole, peut devenir une maladie entre nous.
C'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Joselle Morissin. À la console, Souleymane Tarawali. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique. Ou d'ici là, sur nos pages Facebook et Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
La voix de la...